t'en peux plus d'être un agneau. Sors de l'enclos, mets la radio.
Sors du troupeau, mets la radio. Dans les monts d'art, à Locmélar. Tu veux découvrir la radio?
Oh oui, je veux.
Viens en bistrot, dans les monts d'art, près de Locmélar.
Sors du troupeau.
Sors du troupeau, Locmélar, dans les monts d'art.
Mets la radio.
Deviens le mouton noir du troupeau et mets la radio.
Bonsoir, bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Bienvenue dans notre bar du Mélardite, dans le centre-bourg de Locmélar. Nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Mélar Radio, émission de radio ouverte et participative. Sandrine, la barmaid, nous accueille au sein du Mélardite, un bistrot et pas que, où tout est possible, voire probable. Grâce au soutien de Radio U et de Quentin, nous proposons toutes les deux semaines d'interroger une personne qui a attisé notre curiosité. L'émission précédente donnait la parole à Pierre-Yves Moal, candidat à la mairie de Locmélar. Il nous a dressé un beau portrait de cette fonction essentielle. Allez réécouter ce moment en podcast sur le site de Radio U. Ici, il fait chaud, ça sent le café, et ce soir, le pizzaiolo est installé en face du bar. Venez, venez, les pizzas méritent d'être goûtées. Curiosité et joie de recevoir sont nos maîtres mots. Alors ce soir, nous accueillons Mickaël, dit Mick. Salut Mick, ravi de t'accueillir.
Bonsoir et merci de m'accueillir ici au Locmélar.
Autour de la table, pour t'interroger ce soir... Il y a Jean R.
Salut.
Et notre technicien principal, Quentin.
Bonsoir.
Et en avant la musique.
Ici Locmélar. Les Locmélariens parlent au français.
Passe le mic. Passe le mic.
Grâce à l'émission, nous allons vous présenter la vie des habitants de Locmélar. Et à la fin de l'émission, ce sera aux invités de choisir les futurs interviewés. Nous allons laisser la parole à Jean R.
Merci Ludwig, merci pour cette introduction. Alors donc, comme tu l'as dit, ce soir on reçoit Mick, quelqu'un qui a attisé notre curiosité, un habitant de Locmélar. Un habitant de Locmélar, mais qui n'est pas natif de Locmélar.
Non, je suis natif de Dau-la-Fontaine dans le 49, donc le Maine-et-Loire.
Tout à l'heure, je t'ai dit que tu étais Angevin et tu m'as repris.
Oui, parce que Angevin, c'est la région d'Angers et moi, je suis de Douai-la-Fontaine, donc je suis douaisin.
Mais alors, est-ce qu'à Locmélar, je suis breton?
À Locmélar, on est breton.
Et à Douai-la-Fontaine, on n'est pas Angevin?
Non, on est douaisin.
Ok, d'accord.
Parce qu'à l'époque, quand je suis né, il y avait une maternité à Douai, donc on naissait à Douai, donc on était douaisin. Et okay. Voilà, c'est pour ça qu'on est douaisin, on n'est pas Angevin, c'est la région Angers. Et on est douaisin parce qu'on est né à Dau-la-Fontaine.
Bon, et ben, c'est la géographie, le charme de la géographie. Et alors, mais donc, tu es arrivé à Locmélar. Raconte-nous un petit peu ton chemin pour arriver jusqu'ici.
Alors, je suis arrivé à Locmélar en janvier 2022. Donc, l'histoire, c'est que je travaillais sur Guy Pavard. Donc, j'habitais Brest dans une tour. Et je cherchais à acheter une maison. Et étant célibataire, bah, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai cherché un petit peu aux alentours de Brest pour essayer de trouver une maison dans mon budget. Et je suis tombé sur une annonce à Locmélar pour une maison à vendre, que j'ai contacté tout de suite, que je suis venu visiter avec mon fils 3 jours après. Et on a fait une offre et ça a été accepté.
Donc c'est un hasard qui t'a amené ici?
C'est tout à fait un hasard.
Ok, et tu vis bien à Locmélar?
Ah, je ne regrette rien du tout. Oh, je suis même très content d'être arrivé à Locmélar.
Tu continues à travailler du côté de Brest?
Alors, j'ai travaillé à Guipava pendant longtemps, mais là, maintenant, je travaille sur Plouéderne. Donc, okay. C'est plus près.
Ok, d'accord. Donc on t'accueille aujourd'hui pour que tu nous racontes un petit peu ta vie, ce que tu aimes. Et donc nous, on t'a connu ici à Loc-Mélar parce que tu es associé au Mélardite dans le bar dans lequel on est présent. Qu'est-ce que ça veut dire associé au Mélardite ?
Associé au Mélardite, c'est participer à la vie active du Mélardite, c'est-à-dire être participer aux événements en tant que barman, cuisinier, serveur. Être présent pour servir les gens quand il y a des animations. Ça, c'est la vie d'un associé, je pense. Et c'est ce qui fait vivre... Heureusement qu'il y a des associés au Mélardite, c'est ce qui fait vivre le lieu et c'est ce qui fait vivre la commune de Loc-Mélar également.
Et qu'est-ce que tu entends par événement ?
Ça peut être des concerts, ça peut être du théâtre, des contes, la bibliothèque. Enfin, il y a des apéros livres, il y a plein de choses qui se passent au Mélardite. Et parfois, il y a besoin d'avoir des associés pour servir. Parce que Sandrine, elle est à l'apéro livre, celle qui fait l'animation de l'apéro livre. Donc, il faut quand même quelqu'un pour servir au bar. Et c'est des associés qui sont là pour ça.
Donc, il y a des programmations très originales quand même.
Tout à fait. Il y a plein. C'est très varié. Et tout ce qui est programmé au Mélardite, c'est très varié.
Donc, j'ai cru comprendre que tu fais partie de la commission culturelle de programmation.
Alors, j'ai fait partie de la commission culturelle de programmation, mais je n'en fais plus partie. J'ai pris la décision d'arrêter parce que je ne connaissais pas trop les groupes dont on parlait à la commission et j'étais un petit peu... je me dis, je n'apporte rien, donc je préfère laisser ma place à quelqu'un qui va apporter des connaissances musicales de la région pour inviter des artistes. Moi, je trouvais que je n'avais pas ma place dans cette commission.
Pour trouver des artistes à se produire ici, il faut connaître un réseau un petit peu.
Je pense, parce que Jean-Marie, Guigui, Sandrine connaissent plein d'artistes, des conteuses, des chanteuses. Et c'est vrai que c'est ce qui fait le réseau. Et puis les conteuses connaissent des chanteuses, etc. C'est ce qui fait le réseau, quoi. C'est ça qui permet d'avoir des artistes différents au Mélardite, quoi.
Le week-end dernier, j'ai vu un calendrier qui prévoyait les événements à venir. Alors, c'est rempli à fond. C'est 3 mois d'avance, je crois, pour à peu près.
Il faut prendre de l'avance sur les animations parce que c'est vrai que c'est du travail d'organiser les événements. Il faut prévoir le logement pour les artistes, l'accueil des artistes. Il faut prévoir plein de choses, les associés. Ça fait partie de la programmation. Mais c'est vrai que c'est un boulot énorme, quoi. Et je pense que Sandrine, qui est à côté, pourra en parler plus parce qu'elle fait partie de la commission de programmation.
Oh, on a la chance d'accueillir Sandrine. Salut Sandrine.
Salut Jean-R, salut tout le monde. Juste, je voulais rajouter une petite chose, que pourquoi pas, un de ces quatre, faire une émission pour parler effectivement de la programmation et même... du Mélardite, de son fonctionnement, etc. Parce que c'est quelque chose qui... Il y a beaucoup de gens qui demandent, qui comprennent pas trop comment ça fonctionne, et ça pourrait être l'occasion d'expliquer ce que c'est qu'une SCIC, une société coopérative d'intérêt collectif, et comment on fonctionne, et tout ça, comment fonctionnent les... par exemple, la programmation, les commissions, puisqu'il y a des commissions qui se montent, et les AG, et qu'est-ce que c'est qu'être co-gérant, qu'est-ce que c'est qu'être associé, etc. Voilà.
C'est un vrai sujet, ouais.
Et ça pourrait être un sujet. Merci à vous.
C'est pour ça qu'on dit un bistrot et pas que.
Voilà.
Et pas que, il y a beaucoup de choses dans le et pas que. Merci Sandrine d'être passée.
Merci beaucoup Sandrine, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses ici à faire.
Donc, à quel rythme il y a des événements ici à peu près ?
Il y a des événements, c'est deux, trois fois par mois, c'est très varié. Et là, les beaux jours vont commencer à arriver, donc ça va arriver, il va y avoir des événements de plus en plus, quoi.
À l'extérieur aussi ?
À l'extérieur aussi, sur la place, on profitera de la belle place qui est proposée à Loc-Mélar pour faire des beaux événements.
Moi, j'ai un souvenir ému de voir la place remplie de gens, ça arrive assez régulièrement, finalement, qu'il y ait des centaines de personnes.
Ah oui, avec les événements, l'été, c'est toujours plein, quoi.
Donc, c'est une chance d'avoir ça dans notre village de Loc-Mélar, qui fait qui anime la vie des habitants. Et c'est une chance qu'il faut chérir, c'est pour ça que tu participes.
Tout à fait, et je suis très content d'y participer.
Et c'est vrai que tu passes des heures derrière le comptoir à servir.
J'adore être derrière le bar, à servir toutes sortes de boissons, et de rencontrer les gens de différents niveaux, de différents environnements, et c'est très important pour moi.
Donc, tu as ton travail de la semaine, tu as plein d'activités, et en plus, le week-end, tu viens des heures durant.
Voilà, et il y a aussi les samedis après-midi, parce que y a les associés sont là aussi le samedi après-midi, trois fois par mois, pour remplacer Sandrine pour qu'elle puisse se reposer. Donc, on est deux associés par samedi à faire tourner le Mélardite l'après-midi. Quoi.
Ouais, c'est une bonne idée. Ok, donc bon, on va quand même recentrer un peu plus l'interview sur toi. Je sais que tu fais du ping-pong.
Oui, je suis pongiste au club de l'Andivisio.
Depuis combien de temps tu fais du ping-pong ?
Alors, depuis 5 ans. Bah, depuis que je suis arrivé, quoi. C'est ici que j'ai commencé, oui. En arrivant ici, j'avais envie de faire du sport et j'ai toujours aimé le tennis de table, donc je me suis dit pourquoi pas m'inscrire dans un club.
Et tu as raison, il faut commencer jeune.
Voilà. Et j'ai fait ma première année au TTL. Alors, je ne sais pas comment je dois prendre cette petite remarque sur mon âge, mais je le prends très bien, on va dire ça. Je reste jeune dans ma tête, donc c'est le principal. Et donc, j'ai commencé à faire du tennis de table. Et la deuxième année, le bureau a changé. Et du coup, je me suis mis dans le bureau du TTL. Je suis le secrétaire du TTL.
Ah, tu t'es investi aussi ?
Oui, dans le tennis de table, ouais.
Tu t'investis partout où tu passes ?
Exactement.
Wow, c'est impressionnant.
Et Michael, moi, je te vois parce que tu es en face de moi, mais tu dis « je suis toujours jeune », etc. Mais en fait, les auditeurs et les auditrices ne te voient pas physiquement. Alors du coup, tu as quel âge, Michael ?
Ah oui, je ne me suis pas présenté, effectivement. Donc je m'appelle Michael, voilà. Oh, j'ai 51 ans. Voilà, j'ai 51 ans, mais j'en parais 30. Donc c'est ça qui est important.
Le truc, c'est que t'es connu comme le loup blanc ici. On te connaît tous très bien. On a oublié qu'il fallait te présenter.
Ouais.
Ah, désolé.
C'est vrai.
Moi, j'ai une question sur le ping-pong. Est-ce que tu sauras y répondre ?
Je vais essayer.
Quand je regarde les joueurs de ping-pong jouer, quand ils font leur service, au moment de frapper la balle, ils frappent le sol avec leurs pieds. Je ne comprends pas l'intérêt.
Bon, ça, c'est un toc. Ça n'a pas d'incidence sur le service. C'est juste un toc. C'est pour leur donner du courage ou du pep. Il n'y a rien de physique là-dedans. C'est juste.
Ça n'influe pas sur le
service.
Ça produit un son qui impressionne l'adversaire.
Voilà, exactement. C'est fait pour faire du bruit. C'est comme des petits cris. Souvent, ils font des petits cris quand ils marquent un point. Ils s'essuient les mains. Tu vois, quand tu regardes un match de tennis, tu les vois souvent arriver sous le coin de la table pour s'essuyer. Oui. C'est pour s'essuyer la main pour éviter que la raquette avec la sueur glisse de la main. Donc ils s'essuient sur le coin. Et s'ils font le coin, c'est pour éviter pour laisser la table sans sueur, pour qu'il y ait juste le coin à côté du filet, pour pas que ça gêne le jeu.
Donc à la manière des tennisman un petit peu, il y a des tocs ou des tics.
Ouais, tous les joueurs, chaque joueur a un tic de service, de position pour attendre le service, de jeu, de cris, d'encouragement, parce que les petits cris qu'ils font, c'est pas souvent pour décourager l'adversaire, c'est pour se motiver eux. Ils se font des petits cris. Allez, yeah, yeah, c'est pour se motiver.
Ils extériorisent.
Voilà, ils extériorisent parce que le tennis de table, on a l'impression que c'est pas un sport physique. Mais c'est très physique, il faut avoir du mental. Parce qu'un match, tu n'es jamais perdu. Tu peux très bien perdre, être à 10-6 et remonter à 12-10.
Je suis impressionné par la dimension mentale, effectivement, des matchs.
Il faut du mental.
Rien n'est jamais gagné, quoi.
Et moi, comme je suis également arbitre régional, j'ai passé mon diplôme d'arbitre régional de tennis de table. Je participe à des jeux, j'arbitre des rencontres régionales. Les joueurs, des fois, certains, c'est vraiment, ils se motivent, mais vraiment fort, quoi. Alors, il faut pas que ça. Ils peuvent se motiver, mais sans déstabiliser l'adversaire. Et justement, le juge arbitre que je suis également, eh ben, ils sont là pour me dire au gars, ok, tu as le droit, mais calme.
N'en fais pas trop. On voit les frères Lebrun, qui marchent fort là.
Oui, c'est les plus connus, oui, effectivement.
Et on les voit hurler, effectivement. Quand on voit qu'ils jouent contre des Chinois, qui eux ne crient pas.
Alors, c'est peut-être dans la culture française de stérioriser un peu plus. Ouais.
Et je me disais, ça peut peut-être impressionner ou être considéré comme un affront, je sais pas.
Dans la culture française, je pense juste à un truc dans ma tête qui me fait rigoler. On dit les Chinois ne crient pas et c'est dans la culture française de crier. Mais je voyais dans ma tête Bruce Lee quand il était dans les films. Il criait tout le temps, il faisait « Wouah !»
Alors oui, moi je dis qu'au ping-pong, on les voit pas beaucoup extérieurement.
Non, ils sont beaucoup plus zen, beaucoup plus calmes.
Ouais. D'accord. Et tu fais des matchs ?
Oui, je fais en championnat. Alors, D5, c'est le championnat le plus bas. Mm-hmm. Mais on fait des matchs tous le vendredi soir.
Ok. D'accord. Alors, bon, bah, ça, c'était le volet du ping-pong. Moi, je te connais et il y a un volet qui est assez truculent dans ta dans ton personnage. C'est qu'on a pu te voir à la télé.
Oui, on a pu me voir dans plusieurs émissions et dans des téléfilms aussi.
Plusieurs émissions ?
Oui.
Téléfilms ?
Oui.
Ah, mais je ne savais pas tout.
J'ai participé en tant que figurant à un téléfilm avec Thierry Lhermitte, qui s'appelait Doc Martin, qui était tourné à Douélan, donc près de Quimperlé. Et donc j'ai tourné des scènes dans une boîte de nuit avec Thierry Lhermitte et toute la troupe de Doc Martin.
Quel rôle tu avais ?
Oh, j'avais un rôle d'un mec qui était au bar et qui buvait un coup dans la soirée, quoi.
Ah d'accord, c'était un rôle de figurant.
C'était un figurant.
T'avais pas pas
de texte, mais on a passé une journée complète pour tourner 6 minutes de film, de téléfilm, quoi.
Et donc t'as côtoyé
Thierry Lhermitte, je sais plus son acteur, le nom de l'acteur, mais qui jouait Sam aussi à la télévision. Ouais.
Et alors, c'est le moment de savoir, est-ce que Thierry Lhermitte est sympa ?
Thierry Lhermitte est, on va dire, il est pas désagréable, mais c'est vrai que comme il était dans son rôle de il avait un personnage, il voulait pas être dérangé parce que comme on était peut-être 150 figurants, si les 150 demandent un autographe ou une photo, bah il s'en sort plus, quoi.
Ah oui.
Donc il est quand même resté réservé, voilà, plus. Mais il y a des acteurs qui sont venus nous voir dans les loges des figurants pour discuter avec nous, pour passer un moment, boire un café avec nous. C'était très sympa, c'était une très bonne expérience.
Oui. Ben, Michael, moi, justement, faire du cinéma, faire de la figurance ou avoir un rôle qui soit le 50e rôle d'un film avec trois phrases, c'est quelque chose que moi m'intéresse et qui m'a toujours intéressé d'ailleurs. J'ai jamais su trop comment s'y prendre. Et je suis originaire d'une ville de l'Allier où au mois de mai, avant c'était le mois de mai, pardon, maintenant c'est passé en novembre, ils ont un week-end qu'ils appellent le week-end Cinoche où ils ont invité des grosses têtes d'affiches, des réalisateurs et tout. Et en fait, j'ai toujours été intéressé de faire du cinéma pour avoir des petits rôles, mais j'ai jamais su trop comment me renseigner, tout ça, quoi.
Alors, cette proposition que j'ai faite de figuration, c'est un casting qui était diffusé sur les journaux. Ils demandaient, envoyez votre candidature pour être figurant avec photo, descriptif de... Voilà. Et j'ai envoyé, j'ai dit, on verra bien. Et ils m'ont rappelé pour me dire, est-ce que vous êtes disponible tel jour à 6h, à 7h du matin, à boîte de nuit pour tourner, j'ai dit oui, pas de souci. Bon, on est un peu payé, mais c'est pas non plus
Et l'expérience en elle-même, elle t'a plu ?
C'était exceptionnel de voir les coulisses d'un tournage. C'est je trouve ça très intéressant.
Genre, t'as vu des choses qu'on n'imagine pas juste quand on regarde le téléfilm.
Je te dis, on a tourné de 7, on a commencé à tourner à 8h et on a fini, il était 19h, et dans la série, ça a duré 6 minutes, quoi.
Oh.
Ça a duré 6 ou 7 minutes dans la série, quoi. Et on attendait toute la journée. Parce qu'ils font des prises, ils coupent, ils reprennent. Ça ne plaît pas au réalisateur, donc il faut recouper, il faut refaire la scène.
Et donc, en tant que figurant, il faut avoir dans l'idée de paraître naturel, alors que pour une fois, tu es devant la caméra.
Voilà, c'est ça.
Est-ce que c'est compliqué d'avoir l'air naturel ?
C'est surtout, ce qui est compliqué, c'est que tu dois danser sans musique, quoi. Parce qu'ils ils disent, vous dansez, parce qu'il y a soi-disant de la musique. Ils mettent la musique après en post-production, mais quand on fait le tournage, il n'y a pas de musique. Donc on est là en train de danser sans musique.
Et vous avez quand même une idée de chanson qui...
Non, on danse, on ne sait pas ce qui se passe.
Le rythme...
On ne sait pas.
C'est particulier, ça.
Voilà, donc c'est particulier. Seulement, c'est ça qui est intéressant, c'est justement le décor, derrière le décor, comment ça se passe, quoi.
Et tu dansais sur quoi, du coup, dans ta tête ?
Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle pas du tout. Mais c'était très sympa. Franchement, une très bonne expérience.
Bon, et tu as participé à plusieurs émissions
de
télé ?
Oui, j'ai participé à 3 émissions de télé. Donc, j'ai participé à Tout le monde veut prendre sa place avec Nagui sur France 2. J'ai participé aux 12 coups de midi sur TF1 avec Jean-Luc Reichmann et avec Affaire conclue avec Sophie Davant sur France 2.
Donc, les deux premières émissions, c'est des émissions
de jeux culturels.
C'est ça ?
Bah, c'est des jeux culturels.
Tu t'en es bien sorti ?
J'ai été en finale dans les 2 émissions.
Oh ! Ok, je suis allé jusqu'au bout. Content de toi ?
Oui, très content.
T'as gagné quelque chose ?
Alors, Tout le monde veut prendre sa place, c'était un ordinateur portable. Mmh. Et dans les 12 coups de midi, c'était un week-end en relais château.
Ah ouais, pas mal.
Que j'ai offert à une amie, parce qu'elle était en couple, et je lui ai dit, profites-en. Et je lui ai offert.
Wow, la main sur le cœur, en plus.
Ça me perdra. Voilà. Et après, j'ai fait donc affaire conclue avec Sophie Davant, où j'ai vendu une armure de chevalier.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Alors, c'est un collègue de travail.
Ça se vend, une armure de chevalier ?
Oui, ça se vend. Effectivement, oui, j'ai été... Alors, je vais t'expliquer, c'était un collègue de travail qui fait des reconstitutions du Moyen-Âge. Donc, il fait des combats avec des armures, etc. Il avait une armure chez lui en décoration. Il a déménagé. Son armure ne rentrait plus dans son nouvel appartement. Il nous l'a apportée au boulot. Et on l'avait dans l'open space au travail. Et puis moi, en rigolant, j'ai dit, mais ça, c'est une chose qu'il faut donner, il faut envoyer ça à Sophie Davant, faire conclure, on peut gagner de l'argent. Puis on me dit, oh, t'es pas cap. J'ai dit, ah, je suis pas cap. J'ai pris l'armure en photo, je l'ai envoyée à Sophie Davant, enfin à l'émission, et j'ai attendu. Et un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, pas de nouvelles, bah, c'est fini quoi. Six mois après, ils m'ont appelé, ils m'ont demandé, est-ce que l'armure est toujours à vendre ? Je dis, bah oui, oui. Et bah, est-ce que vous êtes disponible dans deux jours pour venir à Paris, pour venir la vendre ? Bah, j'ai dit oui, pas de soucis, je viens.
Dans deux jours ?
Oui, deux jours après, il a fallu s'organiser. Bah, j'ai dit, mais comment je fais ? Il me dit, bah, vous habitez où ? Bah, je dis, bah, Brest. Et bah, on vous envoie un billet de train, vous prenez le train.
Donc, tu es allé dans le train avec une armure ?
Non, j'ai dit, et pour l'armure, on m'a dit, bah, vous inquiétez pas, on va vous envoyer un transporteur. Et le lendemain, il y a un transporteur qui est venu chercher l'armure. Et moi, il m'avait envoyé un billet de train pour le train. J'avais un taxi qui m'a emmené à l'hôtel. L'hôtel était pris en charge. Un taxi qui m'a emmené de l'hôtel à l'émission et de l'émission à la gare.
Est-ce que tu l'aurais fait de prendre le train avec l'armure ?
Non, c'est un peu compliqué. C'était un peu encombrant.
C'était une armure du Moyen-Âge
C'était une armure une réplique d'une armure du Moyen-Âge.
Ok. D'accord.
Mais j'ai quand même vendu 500 euros, quoi. Donc, c'est pas mal.
Ah ouais, j'aurais pas imaginé que ça se vende à ce prix-là.
500 euros. Et du coup, cet argent, c'était prévu pour faire un grand festin avec mes collègues de travail. J'ai organisé un apéro à mon ancien travail. Et on a fait un apéro avec tout le monde. Et c'est l'armure qui a payé l'apéro, quoi.
Tout est bien, qui finit bien.
Voilà.
Et ben voilà, on a quand même bien abordé le portrait truculent de Mickaël. Et on se retrouve après un morceau de musique.
À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celle qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou. Mes traits ont vieilli bien sûr sous mon maquillage, mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge, mais j'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore. Rien que sous mes pieds, de sentir la scène, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine, mais au fond de moi je suis sûr au moins que j'ai du talent. Mon complet bleu, il y a 30 ans que je le porte, et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du porte à porte, pour subsister je fais n'importe quoi. Je n'ai connu que des succès faciles, des trains de nuit et des filles à soldats. Les minables cachets, les valises à porter, les petits meublés et les maigres repas. Je me voyais déjà en photographie, au bras d'une star, l'hiver dans la neige, l'été au soleil. Je me voyais déjà racontant ma vie, l'air désabusé à des débutants friands de conseils. J'ouvrais calmement les soirs de première, mis le télégramme de ce tout Paris qui nous fait si peur. Et mourant de trac devant ce parterre, entrer sur la scène sous les ovations et les projecteurs. J'ai tout essayé pourtant pour sortir du nombre. J'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie. Si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre. Ce n'est pas ma faute, mais celle du public qui n'a rien compris. On ne m'a jamais accordé ma chance. D'autres ont réussi avec peu de voix et beaucoup d'argent. Moi j'étais trop pur ou trop en avance. Mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent.
C'est bon. Du coup, nous venons de mettre le morceau « Je me voyais déjà » en haut de l'affiche de Charles Aznavour, qui était un grand succès de la variété française des années 60, je crois. Et parce que notre ami Mickaël est fan de chansons françaises, Charles Aznavour, entre autres, et du coup, voilà, ça correspond à sa personnalité.
Exactement, c'est un morceau qui me représente. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. C'était mon rêve quand j'étais enfant, être en haut de l'affiche. Mais bon, j'y suis pas, malheureusement. Mais bon, c'est pas grave.
T'es en haut de l'affiche ?
Ce soir, ouais. Ce soir, je suis en haut de l'affiche, ouais.
Et donc, cette chanson fait le lien avec une de tes grandes passions.
Oui.
On peut le dire, une grande passion, c'est la
musique.
Oui,
c'est une grande passion. Alors, la musique en général, mais surtout la chanson française. Je suis un adepte de la chanson française, donc très variée. Ça peut aller donc de Charles Aznavour, en passant par Eddy de Préto, en passant par Céline Dion, Claude François, Michel Sardou, etc. Et surtout, le plus grand chanteur pour moi, c'est Monsieur Jean-Jacques Goldman. Voilà, pour moi, c'est le plus grand.
Et donc, on dit que c'est une passion, c'est parce que en fait, tu y consacres pas mal de temps. Finalement, tu vas voir beaucoup d'artistes.
Ouais, je fais énormément de concerts. C'est ma passion. J'adore aller au concert, voir les artistes sur scène. Ça n'a rien à voir à écouter un disque à la maison, quoi. C'est tout à fait autre chose, quoi.
Tu achètes parfois des versions live des albums ?
Oui, bien sûr.
Ouais, t'as plus de plaisir à écouter ça, du coup ?
Ouais.
Tu préfères les versions live ?
J'aime bien les versions album classiques, mais j'aime bien la version live parce que ça me remet un peu dans l'ambiance du show que j'ai pu aller voir moi-même, quoi.
Et alors, pour exemple, quels sont les derniers concerts que tu as pu faire ?
Alors, les derniers concerts que j'ai pu faire, la semaine dernière, je suis allé voir Jean-Baptiste Guégan, qui est le sosie vocal de Johnny Hallyday.
Ok.
Voilà. Demain, je vais voir, jeudi, je vais voir Barbara Pravi à la Carène. Voilà, je suis allé voir Indochine, je suis allé voir Michel Sardou, je suis allé voir Eddy de Préto, je suis allé voir tellement d'artistes depuis que j'ai commencé. Je devais avoir 20 ans quand j'ai commencé à faire des concerts.
Et alors, on disait que le Mélardite prévoit ses concerts ici à 3 mois à l'avance. Toi, je crois que tu prévois des concerts auxquels tu vas assister bien plus longtemps.
Moi j'achète mes places de concert 1 an et demi, 2 ans avant la date, quoi.
Ok, et qu'est-ce que tu as déjà dans
Là, par exemple, à la fin de l'année, je vais voir, j'ai déjà ma place que j'ai achetée il y a 6 mois pour voir Garou à Plougastel.
Donc, Mickaël, étant donné que tu nous dis être un grand passionné de la chanson française et déjà avoir participé à des émissions de télé, et à mon avis, je pense que tu dois être très calé dans le domaine, du coup, as-tu envisagé de participer à l'émission « N'oubliez pas les paroles » avec Nagui ?
Alors, j'ai déjà passé le casting 4 fois. Malheureusement, je passe la première étape. Enfin, heureusement, je passe la première étape qui est de trouver les paroles. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais la deuxième étape, c'est de chanter. Et c'est pas parce qu'on adore la chanson qu'on sait chanter. Ça, c'est mon grand désarroi, c'est que je ne sais pas chanter. Et ça, je fais des karaokés, j'adore faire des karaokés, mais j'arrive pas à passer la deuxième étape de cette émission parce que je suis toujours recalé au moment de chanter, quoi.
Ça veut dire qu'on n'est pas juste sélectionné par la mémoire qu'on a pour les textes des chansons. Il faut savoir chanter.
C'est un mix des deux. C'est mix entre le connaissance des paroles et savoir chanter. Parce que si tu connais des paroles mais que tu ne sais pas chanter, quand l'émission va être tournée, les gens ils vont pas pouvoir. Ça va être inaudible si tu ne sais pas chanter. Ça ne va pas être télévisuel, quoi. Et inversement, si tu sais chanter mais que tu ne connais pas les paroles, tu ne passes pas l'émission.
Oui, ça je comprendrais mieux que tu ne sois pas sélectionné parce que tu ne connais pas les paroles. La question qui me vient, du coup, c'est. Combien de chansons tu penses connaître par cœur ?
Alors là, ça, je ne pourrais pas te dire, mais je ne sais pas, peut-être par cœur, je sais pas, 60-70 peut-être.
Ouais, c'est pas mal déjà.
60-70 peut-être.
Et tu saurais concourir sur... parce que dans l'émission, tu n'es pas censé savoir toutes les paroles non plus.
Il y a une chanson qui s'appelle la chanson finale. C'est un duel entre les deux personnes et il faut connaître la chanson. Plus tu vas loin dans la chanson, plus tu as des chances de gagner. Si tu connais pas si ça tombe sur une chanson que tu connais pas, tu es éliminé parce que si la personne à côté la connaît mieux, tu es éliminé.
Mais d'ordre général, ils vont pas jusqu'au bout des chansons. C'est surtout le début.
La chanson finale, ça peut aller jusqu'à la fin, quoi.
Okay, d'accord.
Ça peut aller toute la chanson entière, quoi.
Mmh. Oui, moi j'ai déjà vu, donc c'est un mot, un point, il me semble, quelque chose comme ça, et plus tu déballes, et plus t'as de points.
Ah bah oui, c'est le but du... Et après, si t'as été plus loin que ton adversaire, t'as une petite clochette qui te dit que t'as gagné parce que t'as dépassé l'adversaire.
Donc t'as participé 4 fois
au casting. Ouais.
Donc t'avais vraiment envie de le.
J'ai vraiment envie de faire cette émission.
Ah, encore ?
Ah oui, j'ai toujours envie. Okay. J'attends de refaire, mais je vais retenter. Et... J'ai aussi passé le casting de Questions pour un champion, mais j'ai pas été. J'étais avec une copine qui elle a été choisie, mais pas moi. Mais c'est pas grave. C'est des expériences ces castings. Mmh. C'est très intéressant. Même les castings de Tout le monde veut prendre sa place et 12 coups de midi. Si vous ne l'avez jamais fait, il faut le faire parce que c'est une expérience qui est vachement intéressante, quoi.
Du coup, quand tu fais le casting de l'émission Il faut chanter, on te fait chanter une chanson que tu n'as pas choisie.
Si, tu choisis un couplet et le refrain.
Ah, quand même.
Tu choisis la chanson que tu veux.
D'accord.
Par contre, les paroles, c'est eux qui... tu as un questionnaire et il faut que tu remplisses le maximum. Alors, c'est pareil, c'est dans toutes les émissions, c'est pas que d'un côté. Comme les 12 coups de midi, c'est pas parce que tu as une connaissance parfaite en culturel que tu vas être choisi. Si par exemple, ils font un test, pareil, là, tu as 80 questions que tu dois répondre en 7 minutes. Si tu fais un score superbe, mais qu'à côté, quand ils t'interrogent, tu es tout timide, tu parles pas fort, tu seras pas pris. Et inversement, si tu réponds à 3 questions, mais que tu es super bien à l'aise devant ils te prendront pas non plus. Parce qu'il faut que ça soit un mix entre les connaissances et le côté télévisuel, quoi.
Donc comme pour le cinéma, tout à l'heure, j'ai l'impression de voir l'envers du décor. Je ne savais pas tout ça par rapport aux émissions
de
télé.
Et, les émissions de télé, quand tu fais une émission de télé, donc ils tournent 5 émissions par jour. Donc c'est à la chaîne. Ils commencent à 13h, ils finissent à 23h et ils enchaînent 5 émissions. Les présentateurs enchaînent 5 émissions.
Toi, ça t'est arrivé de faire plusieurs émissions d'affilée ?
Alors, j'ai fait en tant que candidat, non. Mais non. J'ai fait une émission en tant que candidat et j'ai fait la suivante en tant que dans le public.
Ok.
On pour assister dans le public, quoi.
Mais alors, les candidats, quand ils viennent et qu'ils ont possiblement faire plusieurs émissions d'affilée, on leur demande d'avoir une chemise différente
alors,
pour chaque...
Alors, le maître du midi, par exemple, les 12 coups de midi, il a une loge spéciale à lui avec plein de vêtements.
L'animateur, mais ceux qui participent aux émissions.
Pareil.
Aussi.
L'animateur et le candidat, ce qu'on appelle le maître midi, c'est lui qui gagne tous les jours, qui revient tous les jours, et il a sa loge, il a des vêtements, il y a des personnes qui viennent, parce qu'il faut mettre des couleurs chatoyantes, il ne faut pas que ça soit des couleurs neutres, il faut que ça soit des couleurs qui soient assez colorées, quoi.
Donc toi, quand tu regardes l'émission après, tu arrives à voir s'ils en sont à la 5e émission du jour,
non,
niveau de
non,
fatigue.
Non, on ne peut pas. Non.
Ça va être costaud quand même de faire 5 émissions.
Ils font 5 émissions par jour. Wow. Ils font une semaine, une journée.
Ah ouais, d'accord. Impressionnant.
Ouais.
Ok, alors la musique, je sais que tu pourras en parler.
Pendant des heures.
Wow. Et que tu mets Jean-Jacques Goldman.
Ah ouais, Jean-Jacques Goldman, pour moi, c'est le plus grand compositeur, chanteur, c'est le plus grand pour moi. Et même encore aujourd'hui, ça fait. Il a arrêté la musique en 2001. Il a encore le personnage préféré des Français sans qu'il apparaisse dans les journaux ou dans les médias.
C'est fou.
Ça veut dire quelque chose quand même.
Il a impacté énormément.
Ouais.
J'ai une question. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as acheté avec ton propre argent, tu étais peut-être enfant, de la musique ?
Oui.
Qu'est-ce que c'était ce premier
achat ? J'ai acheté mon premier 33 tours. J'avais 14...
Alors attends, explique ce que c'est le 33 tours.
Alors oui, pour les jeunes, le 33 tours, c'était un album, un vinyle avec plusieurs chansons, une face A, une face B, et il y avait 5 chansons par face à peu près. Ça, c'est ce qu'on appelle un album aujourd'hui, c'était un 33 tours. Mmh. Et ben mon premier, je l'ai acheté, je devais avoir 14 ans, c'était l'album Hélène de Rock Voisine.
Ah, ok, elle avait fait un carton à l'époque.
Hélène de Roquevoisine.
Oh, ouais. Ça me fait penser que ma mère, elle me disait quand j'avais 4 ans que quand je pleurais tout ça, elle me mettait mon Roquevoisine. Et je m'en souviens pas du tout hein, parce que j'en ai 4 ans et puis après, soi-disant, ça me calmait.
Mais il a un côté très réconfortant, Roquevoisine.
Puis à l'époque, quand il a commencé, oui, il était très. La, musique, la chanson Hélène, c'est vraiment. C'est apaisant, quoi.
Puis je crois qu'il a boosté l'industrie de la chemise à carreaux. À fond.
La chemise de bûcheron, ouais. C'est... mais par contre, j'ai acheté aussi après cet album, j'ai acheté ma première cassette aussi. Donc, cassette, c'était aussi un album cassette. Et c'était une chanteuse pour enfants qui aujourd'hui me bouleverse encore 40 ans après. C'était un album de Dorothée. Et aujourd'hui, pour moi, c'est mon plus gros regret, c'est de l'avoir jamais vue sur scène. Mais c'est un regret que je vais réparer bientôt. Je vais avoir la chance d'aller la voir au Palais des Congrès. Et ça, c'est, pour moi, c'est un cadeau merveilleux.
C'est-à-dire qu'elle a arrêté de chanter pendant longtemps. Et là, elle revient, c'est ça ?
Elle refait deux concerts au Palais des Congrès le 4 et 5 avril.
Ouais, mais les gens ont dû se battre pour acheter les
tickets. Ça s'est vendu en 8 minutes.
Et t'étais dans ces 8 minutes.
Voilà, le premier, elle a mis une première date le 4 avril et ça s'est vendu en 8 minutes. Les 3500 places se sont vendues en 8 minutes.
Et c'est quand ?
Le 4 avril.
Mais c'est tout proche.
C'est tout proche. C'est tout proche. Et donc du coup, vu le succès qu'il y a eu, ils ont remis une date le 5 et ça s'est vendu en 8 minutes également. Les 3500 places. Wow. Et du coup, après, elle a fait une tournée, elle a fait 5 dates. Et du coup, je vais la voir à Paris, je vais la voir à Nantes.
Deux fois. Et donc, t'as pas raté le coche, quoi ?
Ah non, j'ai pas raté le coche. J'étais devant mon écran. J'étais devant mon écran à 9h57, prêt à bondir sur la première place.
T'as des grosses attentes pour ce concert ?
Ah, la voir, déjà.
Tu vas revenir en enfance, là,
moi, déjà, la voir sur scène, déjà, ça me bouleverse, déjà. Parce que c'est les gens ont peut-être du mal à comprendre pour les jeunes aujourd'hui, mais Dorothée, à l'époque, c'était la star.
Oui.
C'était la star de ma jeunesse, quoi. Et de pouvoir la voir sur scène aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment un très gros, très beau cadeau.
Elle a marqué une génération, plusieurs générations, très fortement,
Ouais. Voilà.
Le 4 avril.
Ouais, donc j'ai hâte.
Donc, ok, super. Content pour toi d'avoir réussi à avoir ces places.
Ouais.
Donc là, on a parlé de musique. Grosse passion pour toi, mais il y a d'autres passions dans ta vie.
Oui.
Qui sont encore liées à la scène.
Toujours.
C'est le théâtre.
Le théâtre, tout à fait.
Le théâtre. Moi, je suis allé te voir l'hiver dernier jouer une pièce à l'Andivisio. Je ne sais plus le titre.
Alors, ça devait être Chacun son tour.
Tu avais le rôle central, on peut dire ça.
Ah, donc c'était le diable au corps.
Ouais, c'est, je pense que c'est
j'arrivais ça. J'arrivais sur scène en caleçon avec un drap.
Il y a des choses qui sont marquantes quand même. Voilà. T'as dit plein de choses après, mais c'est vrai que ça, je me souviens.
Ouais, ouais, c'est ça. Ouais.
Donc, tu joues au théâtre à Landy.
Ouais, je fais partie de la troupe. Quand je suis arrivé sur Locmélard, donc j'ai cherché un club de tennis de table et après, j'ai cherché une association de théâtre. Parce que pour moi, le théâtre, ça fait partie de ma vie. Ça fait 25 ans que je fais du théâtre.
Ah voilà, j'avais demandé, est-ce que tu avais commencé le théâtre jeune aussi, comme le ping-pong ?
Non, le théâtre, je l'ai commencé, je devais avoir 25 ans à peu près. J'arrivais dans une nouvelle ville, il y avait une troupe, et je me suis dit, allez. J'étais vachement timide à l'époque, je dis, ça va peut-être m'aider à...
Ah, t'as fait ça comme une thérapie ?
Ouais, au début c'était une thérapie, ouais.
Et ça a marché ?
Et ça a marché parce que le premier rôle qu'ils m'ont donné, quand je suis arrivé dans la troupe, ils m'ont dit, tu arrives, on te fait confiance, t'as le rôle principal.
Wow.
J'avais 350 répliques à apprendre. J'avais jamais fait
ça. Ah, déjà, tu testais ta mémoire ?
Ma mémoire. Je restais sur scène quasiment toute la pièce. Donc, c'était un challenge.
Ils t'ont donné une grande confiance.
Ouais. Et je les remercie aujourd'hui.
Ouais.
Et c'était quoi la pièce ?
C'était Il y a des calembours. Moi, je me rappelle encore.
Du texte ?
Alors, le texte, je ne me rappelle pas, mais il y avait j'étais barman, j'étais responsable d'un bar et je servais du jus Lienas. Tu vois, le nom de la boisson me.
Est-ce que c'est du vin angevin ?
C'était du vin angevin, ouais. C'était du jus Lienas.
De Douai ?
Non, pas de Douai, non. Et non, c'était, je m'en rappelle très bien et c'était ma première. Et franchement, je les remercie aujourd'hui parce que ça m'a donné confiance Et après, j'ai pas pu m'arrêter. Après, j'ai été piqué au théâtre. Et...
Alors, t'as fait combien de pièces de théâtre
J'ai dû en faire... Alors, c'est vrai que j'ai déménagé pas mal de fois. J'ai dû en faire entre 20 et 25, à peu près.
Ok, c'est un plaisir qui se dément pas, quoi.
Ah non, non, c'est... Et aujourd'hui, je pourrais pas vivre sans théâtre, quoi.
Ah ouais.
Ça fait partie de mon ADN, quoi.
Okay.
Être sur scène, être derrière le rideau, attendre, d'entendre les gens s'asseoir, le brouhaha de la salle, et toi, t'es derrière et t'attends de monter sur scène, quoi.
Et t'es comment à ces moments-là ?
Bah, t'as une boule au ventre, et c'est ça qui est bon, c'est la boule au ventre, parce que si t'as pas la boule au ventre, c'est pas bon, quoi, c'est pas bon signe. Il faut avoir le tract, parce que sinon, tu vas y aller les doigts dans le nez, et c'est là que tu vas te planter, quoi.
Mais
faut
alors...
toujours avoir le tract, parce que ça te met en tension, et c'est ça qui te fait que, bah... faut que tu sois au top, quoi.
Mais c'est pas un track insupportable ?
Ah non, non. Le track, il est là tant que le rideau est fermé. Une fois que le rideau s'ouvre, tu commences ta réplique, il n'y a plus de track.
Et là, t'as la libération de l'énergie.
Exactement. Et t'as les rires du public. Parce que moi, je fais du théâtre, c'est surtout pour faire des boulevards, pour faire rire les gens. Et d'entendre les rires des gens dans la salle, moi, c'est ma récompense, quoi.
Donc c'est des comédies ?
C'est que des comédies, ouais.
Ok.
Comédie de boulevard.
Personnellement, du théâtre comme ça, j'accroche totalement. Par contre, du théâtre hyper recherché, du langage soutenu et tout ça, c'est vraiment pas mon truc.
Ah, c'est un autre style de théâtre. C'est très bien aussi. Après, il faut aller voir du théâtre, le spectacle vivant, c'est important. Mais c'est vrai que moi, je préfère jouer du théâtre comique parce que c'est ce qui plaît aux gens, quoi.
Moi, j'étais pas vraiment allé au théâtre jusque-là. Hein. Et donc, c'est comme je savais que tu jouais, on allait voir et j'ai été impressionné par le rôle et j'imagine tout le travail qu'il y a en amont pour faire ces représentations qui durent entre une heure et une heure et demie.
Ouais, à peu près. Alors, nous, à Londres, on a une façon de travailler un peu spéciale, c'est-à-dire que nous, on est concentré sur 3 mois. C'est-à-dire qu'on commence à répéter en début septembre et on joue mi-novembre. Donc, de septembre à novembre, on vit théâtre, on respire théâtre.
Donc 9 mois de l'année, il n'y a rien et 3 mois à bloc.
Ouais. 3 mois, on est à fond théâtre, on pense que théâtre.
Mais alors, les 9 autres mois de l'année, tu y penses quand même ?
Ben, j'y pense quand même. Alors après, on se retrouve dans la troupe, on se retrouve, on fait des animations, on fait la galette des rois, on fait nos trajets, on a des moments de rencontre. Mais le théâtre, c'est la scène, c'est enfin, pendant 3 mois, c'est à fond, quoi. Et c'est pour ça que... Étant donné que les 9 mois après, bah, j'ai rien à faire, je me suis dit, bah, c'est un peu dommage de ne pas avoir des trucs à faire. Donc, je me suis mis dans une troupe de théâtre d'improvisation.
Oh, la transition.
Le professionnalisme, t'as vu ça?
C'est magnifique. Et voilà, tu viens de dire le théâtre
d'improvisation.
Ok, là, on voulait en venir là, puisque le 11 avril...
Le 11 avril, oui.
Au Mélardite.
Ouais, à 19h au Mélardite. Il y a un spectacle d'improvisation de la troupe Platise. Donc, c'est la troupe d'improvisation de Saint-Éloi. Donc, voilà, on viendra faire un spectacle cabaret. Et pour la première fois depuis qu'on fait des spectacles, donc ça sera notre 5e spectacle, c'est moi qui ferai l'animation.
Alors, attends, prenons les choses dans l'ordre. Donc, 3 mois de théâtre à bloc, théâtre conventionnel, comme on
oui,
dit.
Oui, ouais, c'est ça, classique. Ouais, c'est ça.
Et le reste de l'année, tu fais du théâtre d'improvisation.
C'est ça.
Qu'est-ce que c'est que ce théâtre d'improvisation ? Et c'est pas du théâtre conventionnel ?
Non, alors le théâtre d'improvisation, c'est qu'il n'y a pas de texte. Parce que dans un théâtre conventionnel, on apprend une pièce de théâtre, on apprend un texte, on a un rôle précis, avec son caractère, avec ses manies, ses manières, etc. Alors que le théâtre d'impro, eh ben, on y va sans texte, sans personnage. On joue. On a des thèmes que le public nous donne et on parle là-dessus. Et on brode pour faire rire les gens. On essaye de faire rire les gens avec des... Alors on apprend des techniques, on apprend des façons de faire, des règles dans l'improvisation, mais on y va.
Ça veut dire que les spectateurs s'installent dans la pièce et puis vous démarrez quelque chose.
Alors, il y a un animateur qui est là, qui va demander...
C'est ce que tu vas faire.
Voilà, c'est ça. Qui va expliquer comment se passe un cabaret d'improvisation. Et il va, avant de lancer la première improvisation, il va demander au public de choisir un thème. Alors, ça peut être un lieu, ça peut être un objet, ça peut être toutes sortes de choses.
Des contraintes.
Des contraintes qu'on va donner Alors, par exemple, je vais te dire une bêtise, un éplucheur de voiture, par exemple, et ben, l'éplucheur de voiture, il doit être intégré dans l'improvisation qui va suivre.
Il y a une espèce de plaisir sadique du public à vous apporter des contraintes impossibles.
C'est ça. C'est ce qui fait rire le public qui nous voit un peu embêtés avec ce thème.
Et à vous
de nous dépatouiller pour faire quelque chose de drôle.
Un éplucheur de voiture.
Voilà.
C'est très inspirant.
Ouais, c'est ça. On l'a eu au dernier spectacle, ça. C'est pour ça que ça m'est venu.
Ouais.
On a eu ça, a eu un éplucheur.
Ah, c'est pas une blague.
Non, c'était le public a décidé de nous donner un éplucheur de voiture.
Ah, vraiment sadique.
Voilà, et c'était une improvisation scientifique, donc c'est-à-dire qu'il fallait que j'accueillais un improvisateur qui était un scientifique et qui je l'interrogeais, j'étais intervieweur comme tu fais aujourd'hui, et je lui parlais de son invention, mais lui, il doit savoir de quoi il parle, mais il ne sait pas. Donc en lui posant des questions, il faut qu'il arrive à deviner que c'est un éplucheur de voiture.
Il doit deviner ce qu'il a lui-même inventé.
Exactement.
À travers de ce que tu lui dis.
Exactement.
Ok, et donc tout
ça,
l'enjeu.
Voilà, et tout ça avec des personnages qui sont derrière nous et qui font nos bras et qui s'amusent à nous machiner les cheveux.
Voilà, puisqu'il n'y avait pas assez de contraintes, il fallait rajouter un peu plus.
Ce petit contraint.
Donc, il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'inventivité.
Voilà, et surtout beaucoup de lâcher prise.
Ok, et tu aimes ça ?
J'adore ça.
Parce que là, pour le coup, c'est différent du théâtre conventionnel.
Et les deux peuvent s'accorder, c'est-à-dire que parfois, au théâtre conventionnel, il peut y avoir un problème technique, il peut y avoir un problème, et bien l'improvisation nous permet de faire semblant de continuer à jouer sans que le public s'aperçoive qu'il y a un problème.
Meublé, comme on dit.
Meublé, sans que le public se rende compte qu'il y a un problème. Et c'est grâce à l'impro qu'on arrive à faire ça. Et inversement, dans l'improvisation, le théâtre classique nous apporte le jeu sur scène, la position de la scène, comment on doit se trouver sur une scène. Et c'est les deux sont complémentaires.
Et donc le 11 avril, au Mélardide spectacle, et toi tu es présentateur.
Ouais, c'est ça.
Alors ton enjeu, ça va être de...
Bah, de mettre l'ambiance, de faire réagir les gens, de les pousser, de mettre l'ambiance, quoi, et de lancer les improvisateurs.
Alors j'ai l'impression que l'improvisation, le théâtre d'improvisation a un peu le vent en poupe, c'est en train de se démocratiser, ça rencontre un peu plus de succès. Est-ce que dans cette période de disette du théâtre conventionnel, est-ce que le théâtre d'improvisation te remplit suffisamment ? Est-ce que c'est une discipline qui mérite tout son intérêt puisque c'est pas du théâtre conventionnel ? Est-ce que c'est un demi-théâtre ?
Alors c'est pas un demi-théâtre, c'est un théâtre au sens propre, mais qui est différent du théâtre classique. C'est-à-dire que c'est un théâtre, on est sur scène, on fait des scènes, des improvisations. Mais ça nous apporte, moi ça m'apporte autant de jouer une scène d'improvisation que de jouer une scène d'un théâtre classique. La seule différence, c'est que quand je joue de l'improvisation, quand je rentre sur scène, je ne sais pas ce que je vais jouer. Je ne sais pas si je vais jouer un arbre, si je vais jouer un vieillard, si je vais jouer un enfant, je ne sais pas. Je rentre sur scène et je me lance. Alors que théâtre classique, quand je rentre sur scène, bah, j'ai un personnage avec sa façon d'être, sa façon de parler, sa façon de penser, sa façon de d'être lui-même. Et ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Mais les deux sont du théâtre.
Reste vraiment très différent, puisque on perfectionne au théâtre conventionnel un personnage, tandis qu'on se réinvente à chaque scène sur le théâtre d'improvisation.
Tout à fait, c'est ça. Sur un théâtre classique, on a un personnage du début à la fin. On a le même personnage. Et un théâtre d'impro, d'une improvisation à une autre. Une impro, tu peux jouer un vieillard. Et la fois d'après, tu peux jouer un enfant de 5 ans, ou tu peux jouer un arbre, tu peux jouer...
Un éplucheur à voiture.
Un éplucheur de voiture, par exemple. Voilà, c'est ça qui est... Et l'une des règles de l'improvisation, c'est le lâcher-prise, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire « Ah non, je ne peux pas jouer ça, je vais avoir l'air ridicule. » Non, joue. Joue, tu verras. Tu verras ce que ça va t'apporter, mais joue. Te pose pas de questions.
Ok, donc ça a aussi les vertus du yoga.
Après, je connais pas le yoga, mais si tu le dis, je te crois. Mais
non, moi non plus, je connais pas.
Mais je trouve que
il paraît qu'on se sent bien après. Donc c'est ce qui doit arriver avec l'impro quand tu lâches.
Oui. Moi, quand je. Mais par contre, c'est. Alors les gens, ils pensent pas, mais c'est très épuisant physiquement le théâtre d'impro parce que t'es à fond tout le temps, quoi.
Ouais, tu t'engages complètement.
Tu t'engages tout le temps, et tu réfléchis pas et tu y vas, quoi. Et ça, c'est très épuisant, on va dire. Mais c'est tellement bon. Surtout quand tu vois les gens rire. Ça, c'est...
Ah ouais, c'est puissant.
C'est puissant, quoi. Et des fois, il n'y a même pas besoin de parler. tu fais un mime, un geste, une mimique, et les gens se marrent. Nous, quand on répète une fois par semaine le théâtre d'impro, on fait des scènes, on apprend, mais on se marre.
Ah mais alors attends, ça veut dire quoi, répéter de l'impro?
Eh ben on joue on a des techniques, on apprend des façons de jouer. Par exemple, il y a des choses qui on évite de jouer, de dire bonjour à chaque fois qu'on commence une impro, parce que quand tu commences, tu dis, ah bonjour, ça va. Non, quand tu es une impro, tu connais la personne, tu vas ça va. Enfin, faut pas dire ça va, mais voilà, tu lances ton impro sans dire bonjour, ça va. Et ça c'est en jouant, en faisant des répétitions, en faisant des scènes, que tu apprends ces règles-là.
Parce que ça peut paraître antinomique, enfin, répéter de l'improvisation. Mais c'est vrai que moi, en tant que spectateur, je vois de l'improvisation et je vois la qualité, le savoir-faire de l'improvisation. C'est-à-dire que si n'importe qui devait être sur scène et faire une improvisation, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui le travaille depuis longtemps. En fait.
C'est ce qu'on appelle... Quand je dirais on fait des répètes, c'est surtout des entraînements. C'est comme un joueur de foot. Ah. Si tu le mets sur un terrain de foot et qu'il ne s'est pas entraîné, bah, il va faire 2 minutes et voilà, il va se dessouffler. Mmh. Mais s'il s'entraîne toutes les semaines à courir, à faire des enchaînements, quand il va arriver au match, il va être bon. Bah, nous, on s'entraîne à faire de l'impro, et quand le moment arrive du spectacle, on est entraîné et on sait ce qu'on doit faire, quoi.
Bon, je dois le dire que, en fait, moi, je suis très friand d'impro. J'adore ça. Je trouve que les acteurs qui se mettent en jeu, ils ont un courage incroyable. Et il y a une production qui est toujours surprenante, avec l'aide du public qui envoie des contraintes.
C'est ça qui est...
Parfois grotesque.
Ouais, voilà, c'est ça qui est drôle. Et une improvisation, tu peux jouer deux fois la même catégorie dans deux spectacles différents, ça ne sera jamais la même.
Le rendu ne sera pas le même.
Même si c'est la même catégorie, le rendu ne sera pas la même.
Alors, donc le 11 avril, spectacle d'impro au Mélardite, il faut réserver parce qu'en général, ici, la salle est pleine à craquer.
Il faut arriver tôt. Après, je ne sais pas s'il y a des réservations, mais il faut arriver tôt si vous n'avez pas réservé.
Et c'est une scène particulière, le Mélardite?
C'est une scène particulière parce que c'est très cocon. Il y a pas d'estrade, on est au sol, on est
spectateurs.
On touche les spectateurs quasiment, et c'est
bouillant.
Et c'est jouissif de les voir si près.
En tant que spectateur, c'est bouillant, c'est waouh.
Ah là,
c'est
puis nous, en tant qu'improvisateurs, de voir le public si près et si réactif, c'est très jouissif.
Et on a hâte.
Nous aussi.
On a hâte de voir ce spectacle. Alors Mick, on a appris plein de choses sur toi. Je pense que tu pourrais nous en apprendre encore bien plus
Je pourrais en parler pendant des heures, oui, c'est sûr. Mais ouais.
Faut Quentin doit rentrer chez lui.
Faut laisser la place aux autres.
Ça va toujours?
Ça va super. Ça va très bien. J'ai appris plein de choses aussi. Mon grand-père est fan de Sophie d'avant, donc petite pensée pour papy. Si je lui dis que j'ai rencontré quelqu'un qui a vendu une armure chez Sophie d'avant, il ne va pas en revenir.
Alors je vais pas dire exactement comment ça s'est passé avec Sophie d'avant. Si je veux pas casser le mythe de Sophie d'avant. Donc
ce que tu es en train de faire précisément, mais on va pas aller plus loin.
Elle est pas sympa, c'est ça?
Elle a son caractère.
Je suis pas vraiment étonné.
Ok, alors donc j'ai l'impression que ainsi s'achève notre émission et notre interview, Mick.
Très bien.
C'était super.
J'ai passé un très bon moment, c'était très
pareil.
Agréable.
Moi j'ai envie de continuer une fois qu'on a éteint les micros.
Bien sûr.
Parce qu'on peut discuter pendant des heures avec toi.
J'ai plein de choses à dire encore.
Et donc merci pour tout ça, on se retrouve dans 15 jours.
Au revoir. Salut.
Merci à tout le monde.
Salut Quentin.
Salut.
Ouais, viens voir les comédiens, viens voir les musiciens.